VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous. 11h temps universel. Le bilan des intempéries revu à la hausse en Sierra Leone. Plus de 400 personnes ont trouvé la mort dans les inondations catastrophiques qui ont frappé le pays et 600 personnes sont toujours portées disparues, a déclaré aujourd'hui un haut responsable de la Croix-Rouge. El Hadj Assi a ajouté lors d'une conférence de presse à Genève que la Sierra Leone était confrontée à une crise qui dépasse ses capacités et a appelé donc la communauté internationale à porter son aide. Les habitants de Freetown ont été surpris dans leur sommeil dans la nuit de dimanche à lundi, quand, après 3 jours de pluie torrentielle, des torrents de boue ont envahi les rues et que des pans de collines se sont effondrés sur les habitations. Visite du président guinéen Alpha Condé à Ouagadougou, au Burkina Faso, où il est allé affirmer la solidarité de son pays et celle de l'Union africaine après l'attaque terroriste qui a frappé le café Aziz Istanbul le 13 août dernier. M. Condé s'est rendu sur le site du drame et il a apporté son soutien aux familles des victimes d'une attaque non encore revendiquée de la capitale burkinabé. Notre correspondant Issa Napon.
Le président Alpha Condé s'est rendu dès son arrivée en début de soirée sur le site du drame. Sur place, le président guinéen a reçu les explications du commandant Evra Somda, chef de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale. Le professeur Condé a constaté les énormes dégâts matériels et vu l'endroit où les terroristes ont été finalement abattus l'un après l'autre. Une manière de marquer son soutien a soutenu le président guinéen.
C'est absolument nécessaire que le monde de la solidarité de la Guinée à l'égard du peuple burkinabé, mais surtout aussi la solidarité de l'Union africaine. J'ai apporté une condition modique de 100 000 dollars pour donner aux familles des victimes. Nous allons faire tout notre possible au niveau de l'Union africaine. Nous allons pas apporter notre soutien, mais aussi demander à nos amis d'accélérer, de rendre opérationnel le G5. Vous savez, lorsque les gens décident de mourir, qu'ils viennent en moto, c'est imparable. Quelles que soient les mesures que vous prenez, la seule chose, c'est renforcer nos renseignements pour pouvoir les détecter à temps et les empêcher d'agir.
Après le Malien Ibrahim Boubacar Keïta, il y a 48 heures, le professeur Alpha Condé, le deuxième président, a foulé le sol burkinabé pour marquer son soutien après l'attaque. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Un célèbre défenseur sud-africain de l'environnement qui s'était consacré à la lutte contre le braconnage des éléphants en Tanzanie a été tué par balle par des inconnus à Dar es Salaam, a annoncé jeudi soir sa fondation. Wayne Lotter, cofondateur de la branche tanzanienne de la Fondation de protection de la nature, PAMS, Protected Area Management Solution, a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi à Masaki, un quartier huppé de Dar es Salaam, la capitale économique de la Tanzanie, a annoncé PAMS dans un communiqué. Les motivations des auteurs sont inconnues.
VOA Afrique, en direct de Washington.
La police espagnole recherche toujours un homme en fuite après 2 attentats en Catalogne qui ont fait 13 morts et plus de 100 blessés, a annoncé aujourd'hui le président de la Catalogne. Le fugitif serait, selon toute vraisemblance, le conducteur de la camionnette qui a renversé des dizaines de personnes à Barcelone avant de s'enfuir en courant. Un témoin l'a décrit comme un homme très jeune d'une vingtaine d'années au visage mince. Une autre voiture a foncé dans la foule dans la station balnéaire de Cambrils, faisant 7 blessés. La police dit avoir tué 5 terroristes présumés. À cette occasion, 3 suspects ont été arrêtés par la police, dont un ressortissant marocain. Le président américain Donald Trump a indiqué ce matin qu'il n'était pas raciste, mais a plaidé pour le maintien des statues et monuments des leaders confédérés qui était opposé à l'abolition de l'esclavage. Le débat sur le racisme fait rage ici aux États-Unis. Marilyn Sefok de l'Université Howard de Washington explique les enjeux de la question raciale aux États-Unis.
En insistant sur le fait que l'Amérique ne sera plus blanche, on veut mettre les blancs américains en face d'une certaine réalité. Toutefois, pour les mettre devant cette réalité, il faut aussi parler de l'histoire. Et parler de l'histoire, c'est une histoire vraiment très dure vis-à-vis des Native Americans, des Amérindiens, et vis-à-vis des Noirs américains. Et ça, il faut en parler. Il faut que chaque blanc américain, noir américain, américain de toute origine, puisse connaître cette histoire de façon très intime et connaître les dates, et que ce ne soit pas une histoire qui soit une histoire triomphaliste. Parce que jusqu'à maintenant, ce qui prévaut dans le discours américain, c'est une histoire triomphaliste qui montre l'immigré venant d'Europe avec des idées extraordinaires et qui vraiment façonne la nation. Or, rien n'est moins vrai. Il y a aussi l'apport de toutes les différentes composantes de la nation américaine.
Le docteur Marilyn Sefok de l'Université Howard à Washington, un ministre israélien proche de Benjamin Netanyahou, a déclaré que les relations avec le président américain Donald Trump importaient plus que les condamnations de néo-nazis pour justifier la réaction critiquée du premier ministre aux événements de Charlottesville. Les critiques reprochent au chef du gouvernement israélien d'avoir tardé à dénoncer l'extrémisme de droite et l'antisémitisme affiché à Charlottesville et de s'être contenté d'un tweet vague pour le faire, alors qu'un premier ministre d'Israël se devait, selon eux, d'être la pointe de la réprobation. Des experts américains, mexicains et canadiens sont réunis cette semaine à Washington. L'enjeu, c'est réformer l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain que dénonce le président Donald Trump, les trouvant défavorables aux entreprises américaines. Ces négociations sont suivies de près à Montréal, au Canada. Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce de Montréal métropolitaine, estime qu'il était temps de revoir ces accords qui ont vécu.
C'est clair que c'est un accord qui a été extrêmement profitable pour le Canada, pour le Québec et Montréal, mais également pour les États-Unis et le Mexique. Mais en même temps, c'est un accord qui date, il a plusieurs décennies derrière lui. Et le premier objectif, nécessairement, c'est de le moderniser. Au moment où cet accord-là a été signé, l'Internet n'existait pas, il n'y avait pas de commerce en ligne. On parlait d'immigration, on parlait de réfugiés, mais on parlait pas de fluidité de la main-d'œuvre spécialisée, de grande mobilité de main-d'œuvre comme on a aujourd'hui. Donc, ne serait-ce que pour ces deux aspects-là, c'est un accord qui mérite d'être modernisé.
Michel Leblanc de la Chambre de commerce de Montréal métropolitaine. Le Hajj continue à la Mecque après l'étape de Médine consacrée essentiellement à la visite des lieux saints tels que la mosquée du prophète Mohammed et le cimetière des martyrs de la bataille de Oud. Les pèlerins poursuivent les randonnées spirituelles avant le début du rituel du Hajj qui démarre le 8e jour du 12e mois du calendrier lunaire. Les pèlerins, à leur arrivée à la Mecque, doivent accomplir la Oumma, en quoi appelé le petit pèlerinage, un acte d'adoration recommandé par le prophète de l'islam. Siriki Baro nous en dit plus.
Avant leur entrée dans la ville sainte, les pèlerins font escale au Miqat, un lieu de sacralisation d'où ils se revêtent de leur ihram. Cette tenue, composée de deux pièces d'étoffe non cousues. Les ressortissants marocains venus de Safiville sont au nombre de 290. Âgé de 36 ans, Hakim est l'un des guides de ce contingent. Il nous explique les étapes de la Umra.
L'Umra passe bien, tous les hajis joyeux par l'Umra. L'Umra tourne à Mecca, Kaaba. Après boire le Zamzam, après Saïd Safa Marwa cette fois, et Doua, oui, coiffé les cheveux, tout ça.
Une fois ce rituel accompli, le pèlerin se désacralise en revêtant des vêtements ordinaires. Il peut donc à souhait faire le tawaf qui correspond à cette fois le tour de la Kaaba, le lieu le plus sacré pour les musulmans. Pour ces 290 Marocains, la Umra achevée, l'étape de la Mecque se révèle très éprouvante en termes de commodité. Comme nous l'indique Abdul Azhar, la soixantaine environ. Il arrive pour la première fois en Terre Sainte.
Dans le resto, un vieux fait un rang qui dure 2 heures, c'est pénible pour lui. Donc il faut lui donner un peu de facilité. Surtout, il y en a des femmes qui souffrent de rhumatisme, qui souffrent du diabète, qui sont diabétiques, qui font l'insuline. Donc il faut les aider. Il ne faut pas faire le rang. Nous n'avons pas vu ceux qui sont chargés de la mission de santé. Ils sont absents. Les douches ne sont pas utilisables. Donc, je pense que c'était 25 cm sur 25 cm carrés. Donc, on ne peut pas accéder aux douches.
À la Mecque, tout comme à Médine, les pèlerins auront aussi l'occasion de visiter d'autres musées spirituels, notamment la grotte dans laquelle le prophète de l'islam a reçu sa première révélation. Siriki Baro, depuis la Mecque, pour VOA Afrique.
On termine avec l'Irak. 7 membres de la famille d'un officier irakien ont été tués aujourd'hui avant l'aube par des hommes armés non identifiés à leur domicile près de Kirkouk, au nord de Bagdad. l'officier est parvenu à réchapper à l'attaque après des affrontements entre la police et les assaillants, mais ses 7 proches qui lui avaient été enlevés ont été tués. L'un des enfants tués était âgé de 15 ans. D'après l'AFP, les assaillants ont également fait exploser une voiture dans la maison, a ajouté un responsable des services de sécurité qui a accusé l'organisation djihadiste État islamique d'être derrière cette attaque. Fin de ce journal.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.